France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Merci Lionel, on vous retrouve demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne, France Musique.
Nous accueillerons dans ce Tapage Nocturne un musicien pour qui l'objet du quotidien est synonyme de son, pour qui l'âme des inanimés est source de création. Pierre Bastien, puisqu'il s'agit de lui, viendra nous parler dans un instant de son approche de la composition et de son itinéraire si singulier. Mais ouvrons cette émission par notre page phonographique. Alors mon cher François, avec quoi venez-vous aujourd'hui ?
Je vous propose d'écouter, cher Bruno, une madeleine sonore en hommage au compositeur polonais Eugeniusz Rudnik, récemment disparu à l'âge de 83 ans. Rudnik débute sa carrière musicale en rejoignant en 1958 le studio expérimental de la radio polonaise, avant de collaborer avec un grand nombre d'instituts de recherche de par l'Europe, notamment à Cologne avec Stockhausen et à Paris au GRM. Je vous propose d'écouter d'ailleurs un extrait de la seule pièce composée au GRM en 1979 et qui s'intitule « Moulin diabolique ». Il la dédia à sa fille. Pour Rudnik, la structure formelle de la composition doit rappeler à l'auditeur l'existence à ses côtés de ce moulin diabolique qu'est la guerre. Moulin qui tourne inlassablement depuis des milliers d'années et, demande-t-il, pour combien de temps encore ? Eugeniusz Rudnik, Moulin diabolique.
Ah!
Nous venons d'écouter un extrait de la pièce « Moulin diabolique » composée par Eugenius Rudnick en 1979.
En créant le No X Contemporary Music en 2010, Ryoko Aoki souhaitait associer la pratique vocale du No à la création musicale. Suscitant de nouvelles œuvres auprès de nombreux compositeurs, elle a établi un catalogue qui ne cesse de s'enrichir, de Peter Udvösch à Aurélien Dumont, de Stefano Gervasoni à Noriko Baba, nombreux compositeurs se sont penchés sur cette ancestrale technique vocale singulière. Le théâtre No est l'héritier des formes les plus anciennes du théâtre japonais. Il trouve son origine dans les fêtes religieuses, célébrées dans les campagnes, afin d'égayer les divinités et, ce faisant, s'assurer de leur bienveillance pour les récoltes. C'est à l'époque Muromachi que fut établi les règles de ce qui allait devenir le no d'aujourd'hui, imposant les kimonos, les masques, la musique et la scène. En l'espace d'une vingtaine d'années, l'ancien art populaire se transforma en un art raffiné, destiné à l'élite militaire et politique au Japon. En 2013, paraissait le premier enregistrement d'une série qui tend à se développer, fruit des premières œuvres collectées par Ryoko Aoki. Dans cet opus passionnant, on peut découvrir trois chants no du compositeur italien Valerio Zanicandro. Extrait des Trois chants nous de Valerio Sanicandro, œuvre composée pour le projet No X Contemporary Music en 2013.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
Admirateur de John Cage, Pierre Bastien construisait déjà très jeune des instruments à partir d'objets récupérés. Il collabora notamment avec Pascal Comelade dans son Bel Canto Orchestra et à cette même période avec le chorégraphe Dominique Baguet. En 1986, il fonde son propre orchestre baptisé Mécanium, composé de 9 machines mécano jouant divers instruments tels que le luth chinois, le bendir ou le rebab marocain, la kora ou l'angklung, sans oublier le koto ou la mandoline yougoslave, le tout complété par des accompagnements improvisés du compositeur à la trompette. Si le mécanium est aujourd'hui un élément de son itinéraire passé, Pierre Bastien n'a de cesse de chercher de nouvelles voies pour explorer le son d'après des objets du quotidien. Ce drôle de compositeur est l'invité de Tapage Nocturne.
Thank you.
Pierre Bastien, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on vous connaît pour vos installations, qui ont transformé notamment le mécano en instrument de musique. Mais à l'origine, vous étiez contrebassiste. Qu'est-ce qui vous a fait privilégier l'abandon du geste instrumental?
Ah, je n'ai pas abandonné, je crois que je le privilégie toujours, y compris le geste de manier un archer sur les cordes, ou sur une corde en ce moment. J'ai abandonné la contrebasse sur scène parce que c'est une question de poids, tout simplement, d'encombrement. Soit j'emporte une contrebasse, soit j'emporte mille autres choses. Et donc je préfère emporter mille choses et les déballer sur la scène et avoir comme ça une plus grande palette que ce que m'offrait un seul instrument. Mais je continue à jouer avec les machines d'instruments de musique, donc la trompette, la plupart du temps préparée, un violon à clous, et puis une espèce de rebab. C'est-à-dire, c'est toujours aussi une question d'encombrement. J'ai de nombreux rebabs et, on pourrait dire, de ces violons primitifs, sans aucune notion péjorative, qu'on connaît sous le nom de Gojé en Afrique, ou Riti, ou Soko, ou Kamanché de l'autre côté. Je pense que l'origine, là, c'est la Jordanie. Oui, pour des raisons d'encombrement, je n'emporte pas ces instruments, mais j'emporte un squelette de l'instrument. C'est-à-dire que je joue à l'archer sur un autre archer, puisque la corde de l'instrument, en l'occurrence, est toujours faite de crin, de cheval en général.
Thank you.
Pour vous, faire de la musique, c'est déjà construire un dispositif musical ?
C'est penser à l'orchestre plutôt que penser à l'instrumentiste. Donc c'est concevoir un dispositif assez riche pour produire des rythmes, des mélodies, des bruits, des timbres divers, de l'harmonie. Voilà, tout ce qui compose la musique.
Cette démarche qui vous fait donc détourner les objets, travailler avec des jouets, est-ce que ça a à voir avec une sorte de parfum d'enfance ?
Certainement, c'est-à-dire que oui, je ne me suis pas arrêté. Je vois un concert comme là, chaque fois, même à mon âge, plus de 60 ans, je vois toujours un concert comme la continuation de ce que j'ai commencé vers 15 ans. De façon assez inconsciente, à 15 ans, je ne suis pas une espèce de Mozart, loin de là, mais il y a un fil, et je peux suivre ce fil, même si je suis le seul à le suivre. Je vois très bien comment ça s'est passé, et que c'est juste la continuation de ce que je faisais en adolescent dans ma chambre. Thank you.
Au milieu des années 80, vous développez votre orchestre, le Mécanium, dans lequel vous incluez vite des petits instruments qui sont joués par le mécano, par des petits moteurs. Racontez-nous un peu comment vous avez collecté tout ça.
En allant beaucoup, en fréquentant beaucoup les marchés Opus, en allant chez Emmaüs, où j'ai trouvé par exemple pour 7 euros un instrument fabuleux, le Dozenguni, l'instrument dont jouait Don Cherry, à part la trompette de poche. C'est une harpe luth des chasseurs malinqués. Des sociétés secrètes, des chasseurs malinqués. La dame de chez Emmaüs me l'a vendu pour 7 francs, je me souviens. Et contente de se défaire de cet objet qui devait pour elle avoir quelque chose à voir avec la sorcellerie. Et peut-être d'ailleurs, il est très beau ce Dozenguni, il a une très belle patine, je l'ai rafistolé, oui, je l'ai remis en état, je lui ai mis des bonnes cordes, etc. D'ailleurs, je crois deux semaines plus tard, en me promenant sur le quai Bonaparte à Paris, j'avais vu le même instrument ou quasiment son frère pour 1000 fois plus cher dans une galerie d'art africain. Comment ça s'est passé? Bien, c'est très lent le processus. Chaque fois, une machine me demandait beaucoup de temps. Et à construire, c'est-à-dire que d'abord je jouais l'instrument, je voyais ensuite, je sélectionnais les gestes qui me paraissaient pouvoir être transférés en mécanique, faisables en mécanique, les gestes les plus simples, pouvais faire sonner l'instrument et ensuite je fabriquais la machine. Donc il me fallait les pièces de mécano, il me fallait le moteur, bien sûr. Et je mets tout ça au passé parce que à un certain moment, j'ai arrêté de fabriquer ce type de machine, mécano, moteur électrique et instruments de musique traditionnelle du monde. Je suis passé par différentes étapes.
Il y a eu la période tourne-disque également.
Période tourne-disque, la période aussi des objets usuels qui ont remplacé provisoirement les instruments de musique. Et puis ensuite, je suis passé à des machines qui sont plus abstraites, du moins au premier abord. C'est-à-dire, ce sont des machines faites uniquement en mécano et certaines pièces du mécano sont amplifiées. Et la machine, donc, apparaît un peu comme un objet difficile à cerner. Comme ça, j'entretiens un peu plus de surprise sur scène. J'entretiens un peu plus d'attente du spectateur. Parce que ces machines qui jouaient d'un instrument donnaient par leur image même une idée déjà de ce qu'elles allaient pouvoir produire. Et parfois, l'idée était même meilleure que la production réelle. Et donc, il y avait peut-être une attente un peu frustrée chez l'auditeur. Tandis que maintenant, on ne s'attend à rien de spécial, puisqu'on voit un objet difficile à comprendre, ou en tout cas difficile à imaginer d'un point de vue sonore. Et puis ensuite, les sons sortent de cette machine et donc peuvent provoquer plus de surprises.
C'est l'envie aussi de vous séparer de cet aspect un peu ludique de la musique, parce que c'est vrai que associer en permanence le jouet à la musique, en tout cas, est-ce que finalement c'est pas un peu réducteur de votre démarche?
C'est réducteur certainement dans l'esprit de beaucoup, mais pas trop dans le mien. J'ai jamais penché pour la musique sérieuse. C'est-à-dire, sortons du cadre de la musique, j'ai jamais penché pour le sérieux. À part peut-être dans cet entretien, mais...
Pas du tout.
Non, ça va. J'ai jamais vraiment apprécié le côté un petit peu sérieux de la vie. Je préfère voir ce qu'il y a d'amusant dans les situations, dans les objets, dans tout ce qui m'entoure. Donc, je pense que là... En ce moment, en jouant avec des machines qui ne sont faites que de mécanos, donc que de jouets, qui ont évacué finalement l'aspect le plus scientifique ou le plus sérieux de l'affaire, c'est-à-dire l'instrument de musique, je pense que là, je suis allé encore plus d'un côté dadaïste de la musique que je produis.
Vous laissez encore une grande part à l'aléatoire ?
En solo, pas tellement, non. Quand je joue avec d'autres musiciens, ce qui m'arrive de plus en plus fréquemment en ce moment, là oui, certainement parce qu'il y a justement une part de jeu à improviser avec d'autres, tandis qu'il n'y en a pas tellement à improviser avec soi-même, puisqu'on sait, par définition, on sait ce dont on est capable, on se surprend difficilement, donc je me surprends plus par une composition préalable.
fois référence à Raymond Roussel. Qu'est-ce qui vous séduit chez lui, sa recherche des procédures littéraires ou bien les dispositifs qu'il décrit justement dans ses livres?
Un tout, oui, justement, les deux choses. Oui. Le procédé littéraire, oui, c'est comme un ancêtre de l'Oulipo. Ça parle beaucoup à un musicien parce que, en fait, on utilise que des procédés dans la musique, beaucoup de procédés. Le fait de jouer en sol majeur, par exemple, c'est un procédé. C'est le fait d'avoir un fa dièse, là, automatiquement. Oui, il y a 1000 procédés dans la musique, donc c'est très voisin, c'est pratique. Et l'invention, l'imaginaire, il disait que l'imagination était tout pour lui, Roussel. Pour moi, c'est important aussi, oui, le fait d'inventer, d'imaginer et de s'abstraire du monde réel tout en le paraphrasant parfois, le parasitant, mais faire quelque chose de parallèle à la réalité. Oui. Et puis, le dispositif, j'ai recensé une quinzaine de dispositifs sonores, hein, sonores dans Locus Solus et Impression d'Afrique. Ça, c'est une merveille. Le ver de terre, joueur de sitar, par exemple. Les frères Alcott qui font se répercuter leur voix en écho grâce à leur poitrine concave. Enfin, des choses extraordinaires, oui. On essaye de réaliser ça parfois. Il y a beaucoup de gens qui s'y sont collés, beaucoup d'artistes, et on arrive à la moitié du résultat, bien sûr, parce qu'on est on est confronté à des problèmes physiques quand on veut transposer ça en sculpture, et c'est ça qui est magique avec la littérature, c'est qu'on ne s'embarrasse de rien et un crayon et un papier suffit.
Yeah.
Vous avez sorti des albums sur Reflex, le label d'Aphex Twin, et tout récemment sur le label de Rabbi Behaini, Morphine Records. Comment vous sentez-vous dans cette scène électronique, vous, dont la musique est quasi exclusivement acoustique ?
Acoustique, oui. Oui, je pense que... qu'importe le flacon. je pense qu'on a les mêmes désirs avec quelqu'un comme Aphex Twin ou Square Pusher ou Rabbi Behaini. On a le même désir de... ça serait difficile de définir ce désir-là, mais en tout cas, on utilise les mêmes ressources sonores pour arriver à nos fins. Je sais, les fins, c'est toujours difficile à définir, mais on utilise des boucles, on sample des sons, peu importe quelle technique finalement, quel médium on utilise. Moi, il me semble quand même que on n'a jamais défini un genre avant cette période-ci. On n'a jamais défini un genre par le médium utilisé. On a toujours parlé de symbolisme, de romantisme. On s'est toujours élevé par rapport au médium. On n'a jamais parlé de peinture à l'eau, par exemple, spécialement. Quoi. On n'a jamais classifié des peintres qui peignent que de l'aquarelle. Donc, cette histoire de musique électronique ou acoustique ne me dit rien. J'écoute la musique et lorsqu'il y a ce que j'y cherche, je la prends.
Est-ce qu'il y aurait un recours commun à l'automate, au sens large ?
Ah oui, ça c'est une bonne... Je n'avais pas pensé à ça, mais effectivement, oui. Oui. L'automate généré par un ordinateur ou celui qui est fabriqué par les petites mains. Oui.
Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Bastien, d'être venu nous rendre visite dans ce tapage nocturne.
Merci
et à bientôt.
À bientôt.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était l'excellent Alexandre Bazin, attaché de production Soisic Noël, chargé de réalisation Bruno Riumaillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron et son Alain Brévet.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.